omnipresent question, who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu crées.
It's going to be legendary.
Culturez-vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture.
Camoulox.
Ouais, c'est pas faux.
Messieurs, dames et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion. Particulièrement fan de tout ce qui se rapporte à la culture populaire, je vous propose de me retrouver tous les mois en direct ou en podcast sur Radio Évasion. Et aujourd'hui, on peut le dire, la culture va mieux. Alors oui, je vous l'accorde, on n'est pas encore au top niveau en ce qui concerne l'accès et la mise en place, mais depuis la dernière fois, on sait qu'on peut quand même se faire un ciné, aller voir une expo, écouter un concert ou même aller prendre un verre en terrasse. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors certes, la vie culturelle reprend petit à petit son cours, mais qu'en est-il des dancing? Qu'en est-il des macumba, des bounty et autres pépis? Si certains se réjouissent déjà, ce n'est pas le cas des big boss des dance floors qui ne font plus groover que leurs voisins tous les samedis soirs à coups de basse qui tabasse et autres stromboscopes de chef farfouille. Les discothèques, ou boîtes, comme on dit dans le milieu, sont pour le moment toujours contraintes à rester fermées. Alors avant de voir si le bout du tunnel à facettes sera bien là début juillet et si les dance floors pourront rouvrir, je vous propose de partir de l'autre côté de l'Atlantique au milieu des années 70 pour rentrer dans la plus mythique des boîtes de nuit. Je veux bien sûr parler du Studio 54. C'est en 1977 que le Studio 54 ouvre ses portes. Et ce n'est même pas 3 ans plus tard que ce club légendaire fermera une première fois. Court mais intense, les quelques mois d'existence du club ont vu défiler les soirées les plus dingues à base de stars, d'anonymes, de paillettes, de sexe, de too much et d'énormément de drogue en tout genre. Pour sa dernière soirée, la boîte la plus courue de New York est perquisitionnée. Ses patrons Steve Rubel et Jan Schrager sont menottés puis emprisonnés. Comment? Pourquoi? Qui était-il? Et que s'est-il vraiment passé durant ces soirées déglinguées? C'est tout le sujet de cette émission. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Né en 1943 à Brooklyn, Steve Rubel est le fils d'un postier devenu joueur de tennis professionnel. Si le jeune Steve se tourne au départ vers cette même carrière sportive, son manque de concentration et son envie d'autre chose l'amèneront à l'université de Syracuse, où il décroche une maîtrise en finance, mais pas que. C'est dans cette même université que Rubel va rencontrer celui qui deviendra son associé, Jan Schrager. D'un an plus âgé que Rubel, lui aussi a grandi à Brooklyn. Après leur rencontre à l'université, Rubel part pendant quelques années au sein de la garde nationale faire du renseignement militaire et se lance ensuite dans une société de courtage. Puis, il décide d'ouvrir sa propre entreprise en ouvrant un premier steakhouse dans le Queens, à New York. Un autre suivra ensuite dans le Connecticut. Schrager, lui, continue ses études après Syracuse et décroche un doctorat en droit qu'il pratiquera pendant 3 ans. C'est en 1975 que les deux hommes décident d'ouvrir leur premier club, The Enchanted Garden ou Jardin Enchanté. Déjà à l'époque, les deux associés connaissent les codes et les ficelles de la Russie. Tous deux fréquentent les clubs les plus prisés du moment. The Gallery, le Flamingo, le Jardin ou encore l'Infinity sont autant de lieux cultes pour la fête que de véritables temples du lâcher-prise. Paillettes, décadence et liberté sont les mantras de l'époque pour une société post-guerre du Vietnam qui a bien besoin de rêver. Et pour aller avec ces nouvelles normes, rien de tel que l'apparition de nouvelles drogues. Cocaïne, MDMA et autres substances sont omniprésentes dans les clubs new-yorkais. Et en plus de rameuter une tripotée de fêtards bien décidés à festoyer, ces quelques clubs ont également en commun leur appartenance à la communauté gay et sont clairement les fers de lance d'un nouveau mouvement musical qui soufflera tout sur son passage, le disco.
Culturez-vous, une émission de pop culture présentée par Audrey.
Festif, sexy et groovy, le disco a connu son apogée dans les années 70-80. Né dans les boîtes d'Harlem, de Brooklyn et du Bronx, le disco s'adresse d'abord aux communautés afro, latino et italo-américaines. Lancée par les DJ pour faire danser les foules, elle va vite connaître le succès grâce aux porte-étendards du mouvement, tels Cerrone, les Village People, Donna Summer ou encore Casey and the Sunshine Band. Tous ces artistes feront du disco le mouvement musical de cette décennie. Personne ne veut ou ne peut passer à côté de cette vague à paillettes. Musique, style et danse font partie intégrante de la société américaine des années 70, en pleine mutation à l'époque. Et oui, au-delà du simple côté festif et à l'apparence complètement superficielle, le disco est politique. La vie, la nuit, la sexualité sont les thèmes de prédilection de cette musique. On passe des tubes lisses des années 60 à une version bien plus délurée et sexy. Mais surtout, on rassemble et pas n'importe qui, ou plutôt si, justement. N'importe qui. Pour la première fois, ce sont toutes les communautés habituées à être mises à l'écart qui se retrouvent mises en avant. Les afro, latinos et italo-américains via la musique, mais aussi la communauté gay de l'époque. Depuis les émeutes de Stonewall, la communauté LGBT de New York a bien l'intention de ne plus se laisser faire et compte bien prendre sa place au sein de cette société aux tendances hermétiques. Pour rappel, ce qu'on appelle les émeutes de Stonewall sont un mouvement contestataire et militant lancé par la communauté gay de New York contre une police ultra répressive. En 2018, un reportage du Monde résumait bien la situation de l'époque.
New York, 1969. La situation est dramatique pour les personnes homosexuelles, considérées comme des malades mentaux et discriminées. Celles et ceux que l'on croit être homosexuels peuvent être fichés. Certains emplois, comme l'enseignement, leur sont interdits, et il leur est très difficile de se rassembler. Les bars ne sont en effet pas autorisés à leur servir à boire, et deux personnes de même sexe qui dansent ensemble peuvent être arrêtés.
Un soir de juin 69, la police lance une nouvelle descente auprès d'un bar ouvertement gay, le Stonewall. Sauf que voilà, pour le coup, gay, trans, drag queen, drag king en ont juste ras-le-bol de se faire arrêter et tabasser. La foule, cette fois, décide de ne pas partir, et même elle se rebiffe, elle prend les policiers à partie. Durant les trois nuits suivantes, les habitants du quartier et toute une partie de la communauté continueront de tenir tête aux forces de l'ordre. De ces affrontements naîtront notamment le Front de Libération Gay et la première Gay Pride célébrée l'année suivante, un an jour pour jour après cette fameuse nuit. Après tous ces événements, la communauté gay affiche une nouvelle fierté. Elle est bien décidée à profiter de la vie et de la nuit. Et pour ça, il y aura notamment le Cheetah, l'Ice Palace ou encore le Jardin. Tous ces clubs ouvertement gays rassemblent une population hétéroclite où les Kidam se retrouvent à se déhancher aux côtés de Calvin Klein, Diana Ross ou encore Grace Jones. Et tous ces clubs, les futurs fondateurs du Studio 54, Steve Rubel et Jan Schrager, ils les adorent et les fréquentent régulièrement. Tous les soirs, les deux compères observent les stars de l'époque évoluer dans ces clubs branchés sans pouvoir les approcher. Mais eux aussi, ils veulent côtoyer les stars. Eux aussi veulent goûter à cette vie de strass. Eux aussi veulent leur part de gâteau pailleté.
Uh-huh.
sur Radio Évasion dans l'émission Culturez-vous et vous venez d'entendre le tube That's the Way des stars de la disco, Casey and the Sunshine Band. Et oui, aujourd'hui je mets des paillettes dans votre vie et dans cette émission, car elle est consacrée au temple du disco, à la mecque des dancing, au club le plus mythique qu'il soit. Je veux bien sûr parler du Studio 54. Avant notre pause musicale, nous en étions au rêve de grandeur de nos deux futurs fondateurs, Steve Rubel et Jan Schrager. Pour Steve Rubel, petit homo assumé au visage goguenard, et Schrager, l'élégant hétéro élancé, les discothèques vont bien au-delà de la fête. C'est aussi un juteux business qui se profile. En 75, ils ouvrent leur premier club, l'Enchanted Garden, implanté dans le Queens, à l'est de Manhattan. Attendez, un petit point géo s'impose. New York est divisé en 5 arrondissements. Le Bronx, Brooklyn, Staten Island, le Queens et Manhattan. Et comme partout, il y a des coins plus branchés que d'autres, surtout en fonction des époques. Et à l'époque, le Queens, c'est pas vraiment the place to be. Alors certes, le club des associés marche bien et se remplit facilement, mais pas de stars à l'horizon. People ou jet setter, personne ne se bouge pour aller dans le Queens. Les deux compères, aussi pugnaces que malins, vont alors faire appel à Carmen Alessio. Cette reine des soirées new-yorkaises, qui a bossé notamment chez Saint Laurent, a un carnet d'adresses aussi fourni qu'un bottin. Si au départ, elle refuse de travailler pour eux, elle leur souffle tout de même l'idée d'organiser une soirée basée sur les milieux de nuit, avec chameaux, éléphants et costumes pour les employés. C'est un énorme succès. Elle fera même venir Calvin Klein et Donna Summer à cette soirée, ce qui marquera le début des fameuses soirées de Steve Rubel.
Vous écoutez Culturez-vous, une émission de culture pop présentée par Audrey.
Un an après l'ouverture de leur premier club, Rubel et Schrager décident de fermer boutique. Ils veulent changer de quartier pour en ouvrir une nouvelle à la hauteur de leur désir de réussite. Ils traversent donc l'East River et posent leurs valises sur la 54e rue en plein cœur de Manhattan. Pour accueillir leur nouveau dancing, les deux associés rachètent un ancien théâtre, transformé en studio de la chaîne de télé CBS. Inoccupé depuis plusieurs années, ce bâtiment va devenir l'écrin des soirées les plus délurées des années 70. Petit tour du propriétaire. De grandes portes noires qui donnent sur un long couloir vous mènent dans la salle principale, en face de la piste de danse, la grande scène où se succéderont Grace Jones, Donna Summer et James Brown. La scène est surplombée d'un énorme éventail de néons et elle sera également accompagnée du célèbre Moon and the Spoon, un croissant de lune géant assorti d'une cuillère remplie de cocaïne. Voilà qui donne le ton. Côté gauche, vous trouverez le bar, avec ses jeunes serveurs, que des beaux gosses, simplement vêtus d'un mini-short de satin et des baskets blanches. Et de l'autre côté de la piste, vous avez le fameux balcon et ses sièges en cuir. Pourquoi fameux? Parce qu'au-delà de faire partie de l'architecture de cet ancien théâtre, le balcon est aussi l'endroit où tous ceux qui souhaitent passer un bon moment en bonne compagnie peuvent se retrouver. Et pourquoi les sièges en cuir? Tout simplement pour faciliter le nettoyage. Hommes, femmes, connus, inconnus, à 2, à 3, à 7, le public du 54 a certainement fait honneur à ce spot plongé dans la pénombre qui lui aussi a contribué à la réputation du club. Pour finir notre visite, passons devant les toilettes mixtes et continuons jusqu'au sous-sol dans le coin VIP. Encore plus moite, encore plus acidé et encore plus barré que le reste de la boîte, il accueille la crème de la crème des habitués et sera le théâtre de débauche absolue. Telle cette soirée où un concours d'expulsion de fluides corporels a été organisé pour gagner un voyage à Saint-Barth. Voilà comment on construit un mythe en moins de 3 ans.
Just try.
C'était Blondie avec l'iconique Heart of Glass. Vous écoutez toujours Culturez-vous sur Radio Évasion, l'émission qui vous parle de pop culture. On continue sur notre sujet du jour, le Studio 54 ou la boîte de nuit qui est aujourd'hui encore l'incarnation de la fête inégalée. Et justement, sa réputation de parc d'attractions pour adultes, le 54 va aussi la construire grâce à la démesure de ses soirées. Et la première, c'est l'inauguration. 26 avril 77, 22h. On ne peut pas dire qu'il est fou à l'entrée. Pourtant, Rubel et Schrager s'étaient donné les moyens. Encore une fois, ils ont fait appel au carnet d'adresses le plus célèbre de New York, celui de Carmen Alessio. La jeune femme envoie 5000 invitations à travers le monde, avec, pour chaque invité, un cadeau personnalisé. Et cette simple phrase prophétique, il va se passer quelque chose d'énorme. Minuit, cette fois c'est l'émeute. La boîte est blindée. Dès le premier soir, le 54 accueille notamment Andy Warhol, Calvin Klein ou Alston, qui deviendront des habitués, voire des piliers du club. Et dès l'inauguration, la légende se forge. Le public, frustré, resté à l'extérieur, monte en pression. Les esprits s'échauffent et ça n'est rien de le dire. Sur le trottoir, un homme commence à distribuer des sédatifs à qui n'en veut et très vite, de nombreuses personnes se mettent à copuler sur le trottoir, transformant l'entrée en véritable orgie. Tout ça sous les yeux de Mick Jagger et Frank Sinatra, refoulés du club faute de place. Et ce n'est que le début. Mais ce temple du disco n'est pas devenu une référence ultime en termes de discothèque juste en faisant venir du beau monde. Même si le beau monde en question s'appelle Michael Jackson, Truman Capote, Cher, Blondie, Salvador Dali et bien sûr l'ex-femme de Mick Jagger, l'actrice Bianca Jagger, qui deviendra l'une des plus fidèles habituées du 54 et l'une de ses représentantes les plus connues. C'est d'ailleurs pour son anniversaire que les danseurs hallucinés ont vu débarquer un cheval blanc monté par l'actrice en plein milieu de la piste de danse. Ce moment restera l'un des plus emblématiques de la discothèque. Et des anecdotes comme ça, vous en avez à la pelle. Rubel s'est épaté son public, comme pour la venue de Dolly Parton, féru d'animaux, qui a vu le Studio 54 se transformer en ferme géante le temps d'une soirée. Poulets, ânes, chevaux, bottes de paille, tout y était. Rubel était capable de dépenser jusqu'à 100 000 $ rien que pour une soirée. Et là, je parle juste de déco. Parce que lors des soirées au Studio 54, il n'y avait pas que les paillettes et le champagne qui coulaient à flot. Cocaïne, poppers, acide, ecstasy, demandez le programme. On pourrait presque dire que la drogue était la troisième associée du club. Distribuée aux clients de prestige comme des bonbons dans une fête d'anniversaire, elle a toujours été présente. On raconte même que les patrons de la boîte, lors de certaines soirées, en glissaient dans des ballons géants accrochés au plafond pour ensuite les faire éclater au-dessus de la piste de danse. Mais pour connaître ces soirées, encore faut-il pouvoir rentrer. Steve Rubel, l'un des patrons, choisit lui-même qui se verra accorder le droit de passer les portes noires du club le plus couru du monde. Écoutez comment TF1 en parlait en 78.
Il y a un an encore, les discothèques étaient réservées en Amérique aux gens d'âge moyen et de situation de fortune respectable. Aujourd'hui, on supplie, on crie, on pleure pour entrer dans des discos du style du Studio 54. On supplie parfois pendant toute la nuit, car ici, l'entrée se fait à la tête du client. Comment choisissez-vous les gens qui entrent ici? C'est comme la distribution d'une pièce, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait des gens à la mode, des comédiens, des gens amusants, des mauvais garçons, ceux qui vont attirer l'attention et puis ceux qui vont regarder.
Steve Rubel était tellement sélectif et despotique qu'il pouvait certains soirs laisser sa boîte à moitié vide alors que des centaines de personnes attendaient à l'extérieur. Comme disait Andy Warhol, dictature à l'extérieur et démocratie à l'intérieur. Selon Rubel, et je cite, il est préférable d'avoir une boîte presque vide que de laisser entrer une seule personne mal habillée. Même certaines célébrités se feront refuser l'entrée, comme Cher, pour une soi-disant faute de goût niveau vestimentaire, ou encore le groupe Chic, qui lui composera un de ses tubes en référence directe à son refus. L'accès au 54, ça devient vite du grand n'importe quoi. Les gens vont imaginer toutes les techniques possibles et inimaginables pour pouvoir accéder au dancing le plus select de la planète. Ça va des vaines tentatives de corruption du videur à l'achat de cartes qui prétendent montrer comment entrer via les tunnels du métro. Mais ça, c'est pour la partie plutôt marrante, parce que dans le genre beaucoup plus glauque, on a aussi l'histoire du mec qui a voulu rentrer en mode cliffhanger. Le type, équipé tel un alpiniste du Mont Blanc, a tenté d'entrer dans le studio 54 par les bouches d'aération. On peut clairement appeler ça une très mauvaise idée. Il a été retrouvé quelques temps plus tard, décédé, coincé dans la bouche d'aération dans son costume de soirée. C'est le staff de la boîte qui l'a retrouvé après avoir été gêné par une odeur de chat mort.
Quelle sale histoire !
En plus d'être un lieu de fête, de débauche et d'excès, le Studio 54, c'est aussi une énorme machine à fric.
En un an, l'industrie du disco aux États-Unis a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards de nouveaux francs. Au Xénon, la recette d'une soirée atteint 90 000 nouveaux francs. Au Club 54, elle peut bondir jusqu'à 270 000 nouveaux francs. Les profits réalisés en un an ont été de 13 millions de nouveaux francs, soit 1 milliard 300 millions de centimes pour le seul Club 54.
Tous les soirs, Rubel et Schrager brassent des milliers de dollars. Et Rubel, qui aime se vanter de son succès à qui veut l'entendre, annoncera même en interview que seule la mafia pouvait gagner autant d'argent. Et pour le coup, on ne doit pas vraiment être loin du compte. En moyenne, le chiffre d'affaires s'approche des 5 millions de dollars par an. Tous les soirs, les associés enfournent 80% de la recette dans des sacs poubelles. Mais forcément, à force de brasser autant, de le claironner sur tous les toits et d'être un camé affiché, ça commence à en titiller certains. Et les certains en question, ils s'appellent les agents du fisc américain. La nuit du 31 décembre 79, les autorités font une descente au club. La police retrouvera 1 million de dollars cachés dans des sacs poubelles, eux-mêmes planqués dans les murs de la boîte. Ils trouveront aussi une jolie petite liste de noms de célébrités avec indiqué pour chacun le nom de leur drogue préférée. Ça c'est cadeau. En tout et pour tout, la police révélera une fraude fiscale estimée à plus de 2,5 millions de dollars. Pour ça et leur trafic de drogue, Rubel et Schrager écoperont de 13 mois de prison. Mais avant leur petit séjour à Londres, ils pourront organiser une dernière soirée. Le 4 février 1980, la soirée The End of Modern Day Gomorrah deviendra la dernière véritable soirée du Studio 54. Et même si ce club a été racheté en 80 et Steve Rubel engagé en tant que directeur artistique, la magie n'y est plus. Alors, Rubel et Schrager se réassocient et se relance dans la partie dès 1983 en ouvrant une nouvelle boîte, le Palladium. Le 54, quant à lui, fermera définitivement ses portes en 1986. À nouveau considérés comme les rois de la nuit, les associés se préparent même à ouvrir 3 hôtels. Oui mais voilà, la vie en décide autrement. Steve Rubel décédera du sida en 1989. Et avec lui, s'éteint l'image de la liberté, du no limit et une vision de la fête jamais égalée.
Aujourd'hui, le 54 a éteint ses lumières et le disco s'essouffle. Mais qu'on se rassure, le printemps est arrivé et avec lui quelques poètes du son. Des sons qu'un jour New York transformera peut-être en mode.
Après le décès de son associé, Schrager, lui, continuera à prospérer. Devenu magnat de l'immobilier et père de famille rangée, il restera jamais le porteur d'une époque révolue. Celle où une boîte de nuit a révolutionné une société et a connu le timing parfait. Après la guerre du Vietnam et avant les années Reagan, après la pilule et avant le sida. Souvent imité mais jamais égalé, le Studio 54 aura provoqué une onde de choc mondiale dans le milieu de la nuit et aura bâti les fondements des dance floors du monde entier. En tout cas, si vous voulez entrevoir à quoi pouvait ressembler l'époque glorieuse du Studio 54, allez jeter un œil au film Studio 54 justement, avec Ryan Phillippe, Salma Hayek et Mike Myers dans le rôle de Steve Rubel. Et voilà messieurs dames, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais soyez sûrs qu'on se retrouve dès le mois prochain sur Radio Évasion pour une nouvelle émission de Culturez-vous. Une émission qui sera, je vous l'assure, pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt.
Omnipresent question. Who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
It's going to be legendary.
Kamoulox!
Ouais, c'est pas faux.